Les combats continuent à Gaza, les États-Unis parlent d'un accord sur les otages qui se rapproche, Israël de son côté ne commente pas. Vous en parlez, Lise, avec votre invité Raphaël Jérusalmi, ancien officier des renseignements militaires de Tsahal.
Raphaël Jérusalmi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, c'est vrai qu'en cette veille de Pessah, Raphaël, tout le monde a en tête la situation des otages. Hier, Donald Trump a dit que des progrès avaient été réalisés, que ça allait être bientôt. On a entendu aussi Steve Witkoff. Mais du côté des Israéliens, on dit rien du tout. Et c'est pas forcément bon signe.
Non, on connaît la rhétorique américaine de toujours prôner le positif. Ça ne fait pas vraiment avancer les choses. C'est juste pour créer une ambiance de positif dans les négociations, mais c'est de la poudre aux yeux, rien n'avance, c'est complètement bloqué, on ne voit pas en quoi le Hamas aurait un intérêt quelconque à libérer des otages, si ce n'est pour revenir à la situation du 6 octobre, c'est-à-dire où le Hamas serait en plein contrôle de la bande de Gaza et redéployé et réarmé. Donc jusqu'ici, il n'y a aucun... que de lueur d'espoir pour l'instant. La pression militaire est en train de s'intensifier et là aussi, pour l'instant, elle ne porte pas ses fruits. On ne voit pas le Hamas faiblir ou plier. Bien au contraire, on a révélé cette semaine à quel point le Hamas demeurait militairement fort relativement après un an et demi d'action de Tsahal. Donc pourquoi ça marcherait maintenant si ça n'a pas marché avant?
Les émissaires de Trump ont visiblement rencontré des responsables du Hamas au Qatar et on parle même peut-être sans en avoir informé Israël. Est-ce que les États-Unis ont de la marge de pression d'une quelconque façon par rapport au Qatar, Raphaël Jérusalmi?
Par rapport au Qatar, oui. Par rapport au Hamas, non. Doubler les Israéliens, c'est une très mauvaise tactique. Car en fin de compte, les seuls qui peuvent payer la rançon pour les otages, ce sont les Israéliens et non les Américains. Et ce sont les Israéliens qui peuvent donner l'ordre à Tsahal de se retirer de la bande de Gaza. Ce sont les Israéliens qui détiennent dans leur prison des détenus palestiniens, des terroristes du Hamas qu'ils pourraient libérer en échange des otages. Ce sont les Israéliens qui fournissent l'aide humanitaire et qui prétendent bientôt la renouveler d'ailleurs à Gaza, et non les Américains. Et donc aller derrière le dos des Israéliens pour négocier en plus, faire une sélection, c'est-à-dire négocier en priorité les citoyens israéliens qui ont une nationalité américaine, c'est de mauvais goût, c'est contre-productif, et à mon avis, ça ne doit pas faire plaisir au gouvernement israélien.
Non, effectivement, on entendait que Ron Dermer, ministre des Affaires stratégiques, qui est proche de Benjamin Netanyahu, avait passé un coup de fil furieux à Adam Boller sur ce sujet. Le Hamas, de son côté, essaye de faire monter les enchères, en fait, Raphaël, avec 500 prisonniers libérés pour chaque otage. Adam Boller essaye de baisser à 250, mais même comme ça, ça n'est pas acceptable pour Israël.
Exactement, c'est comme je l'ai dit, il n'est pas habilité à faire des négociations puisque les otages, les détenus à libérer sont aux mains des Israéliens et pas aux mains des Américains. C'est un petit peu la politique de Trump de forcer la main à ses alliés comme à ses ennemis. Je ne pense pas qu'Israël ici doit se laisser faire, pas du tout. Pour une fois, je suis... C'est pas souvent, une fois n'est pas coutume, d'accord avec donc Ron Dermer sur le fait que c'est inacceptable. C'est très facile, hein, quand c'est pas vous qui payez, de mettre une somme élevée sur la table. Je pense que c'est en plus vraiment contre-productif, ça dessert la cause des otages. Et aujourd'hui, je pense très sincèrement, encore plus que par le passé, qu'il faut exiger tous les otages d'un coup ou rien. Parce que véritablement, cette fois-ci, ceux qui resteront derrière seront pratiquement condamnés et condamnés à mort.
Alors là, ça n'est évidemment pas ce que propose l'Égypte dans sa dernière proposition qui a été faite cette semaine, puisqu'il prévoyait de libérer 8 otages en échange d'un cessez-le-feu d'entre 40, 50 jours, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on en est toujours, on n'en est plus en Israël à cette position de se dire 8 otages, c'est mieux que rien?
Je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets des décisions du cabinet de sécurité israélien. Pour l'instant, il y a aussi beaucoup de flou. Le Hamas prétend n'avoir pas reçu cette proposition égyptienne. Les Israéliens prétendent n'avoir pas reçu une autre proposition qui émanerait du Qatar. Rien n'est très clair dans tout cela. On n'est même plus tellement sûr de savoir qui, du côté du Hamas, prend effectivement les décisions ultimes par rapport aux otages. Est-ce toujours le frère de Sinwar qui est le chef dans Gaza? Y a-t-il d'autres facteurs, des éléments qui interviennent dans les décisions du Hamas? En Israël, il y a des débats similaires et des désaccords sur le prix à payer ou ne pas payer pour la libération des otages. Et puis il y a ce qui fait aussi monter un petit peu les enchères, évidemment, toute la contestation israélienne. Alors, il y avait jusqu'à présent le soutien populaire, les grandes manifestations auprès des familles des otages. Et vous avez maintenant le mouvement des réservistes de Tsahal qui, lui, s'oppose carrément à la stratégie actuelle, qui est celle de la pression militaire, et qui demande un arrêt des combats et de ne passer qu'à la solution diplomatique. Tout ça, ça ne fait que monter le prix, ça ne fait que monter les enchères. Il y a beaucoup trop de bruit et pas assez de silence pour que ces négociations aient lieu de façon sereine et sérieuse.
Alors, pendant ce temps-là, les forces israéliennes progressent dans l'axe Morag au sud de la bande de Gaza. À quel point c'est important, ce secteur, Raphaël?
C'est le secteur de la bande en fait de Philadelphie qui a été un petit peu déplacé. C'est donc une zone tampon en fait entre le Sinaï et Gaza, dans la mesure où c'est à travers cette frontière avec l'Égypte que passe tout le soutien logistique, financier et d'armement qui alimente le Hamas. C'est un petit peu donc couper ce cordon ombilical sur le terrain qu'il y a entre le Gaza et le Sinaï et qui est très efficace dans la mesure où ce sont des contrebandiers bédouins du Sinaï, des experts de la contrebande qui s'occupent donc d'alimenter le Hamas, surtout en armement, mais même en argent liquide, tout en payant des bakchiches aux policiers et douaniers égyptiens. C'est une zone qu'il faut absolument avoir sous contrôle israélien. On ne peut pas faire confiance aux Égyptiens pour en assurer le contrôle. Ils ont échoué pendant des années. C'est donc aux Israéliens de prendre le contrôle de cette zone et de créer une sorte de zone tampon qui, en fait, n'est qu'un prolongement d'une sorte de ruban qui devrait entourer la zone de Gaza, un ruban de 2-3 km de largeur qui serait un no man's land où aucun Palestinien ne serait là, seulement des forces militaires, des patrouilles pour assurer donc une zone de tampon entre Gaza et Israël.
Mais ça veut dire que du coup, on laissera des soldats là-bas pendant des années, hein, Raphaël Jérusalem.
Malheureusement, oui, pour l'instant, on n'en voit pas d'autres solutions. Il aurait fallu y penser avant. On a parlé pendant longtemps du jour d'après, 3 4 mois après le début de l'offensive de Tsahal sur Gaza. On a commencé à parler du jour d'après. Malheureusement, au niveau politique, on n'a pris aucune décision, on n'a envisagé aucune solution, et donc on reste avec le problème sur les bras. Il fallait au contraire s'en débarrasser le plus vite possible, quitte à donner la clé de Gaza aux Nations Unies, à l'Arabie Saoudite, à qui on veut, mais surtout pas à nous. Et il fallait se débarrasser de Gaza le plus vite possible. La solution aurait été effectivement de trouver une solution, un régime alternatif, temporaire, même des gardiens de la paix, des casques bleus, peu importe. Le tout et l'essentiel aurait été une stratégie qui fait que nous nous éloignons le plus possible de cette zone brûlante, impossible à gérer en fin de compte. Et donc maintenant, nous nous retrouvons avec le problème sur les bras. Mais la véritable coupable dans cela, c'est la communauté internationale. La communauté internationale est hypocrite, elle est lâche, Elle prétend qu'elle veut le bien de la cause palestinienne, mais elle ne fait rien pour. Personne ne vient à Gaza, ni les Français, ni les Américains, ni personne ne vient à Gaza véritablement mettre de l'ordre dans ce chaos, aider et pacifier les choses, et on laisse les Israéliens se débrouiller tout seuls.
Merci beaucoup, Raphaël Girouzdadmi, ancien officier des renseignements militaires et écrivain, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. À très vite et Chag Sameach.
Chag Sameach.